Voilà. Donc, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, nous sommes toujours dans notre voyage au travers de l'Épître aux Romains. On va revenir en fait sur plus ou moins sur le même passage qu'on avait survolé la semaine dernière pour s'arrêter sur deux, trois choses. J'aimerais juste avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, faire un petit survol parce que le gros inconvénient, on va dire, à étudier une lettre, une épître, sur aussi longtemps, c'est qu'à force de regarder les petits bouts, on oublie l'ensemble. Il faut se rappeler que même s'il y a de quoi l'étudier morceau par morceau, quand Paul a écrit cette lettre, il a écrit comme une lettre, même s'il l'a dictée. Et il a dû y réfléchir, bien sûr, parce qu'elle est riche, mais elle était écrite comme une lettre qui était faite pour être lue du début à la fin. Si vous lisez l'Épître aux Romains du début à la fin, ça prend 10 minutes, 12 minutes peut-être. Donc c'est pas un texte très très long, hein. Et puis, plus, ça dépend de l'allure qu'on lit. Non, c'est pas si long que ça. Ouais, mais je veux dire, dans un quart d'heure, pour la lire, hein, sans s'arrêter dessus, je parle, hein, la lire. C'est pas un texte qui est très très long, il est dense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, les petits morceaux qu'on étudie peuvent perdre du sens parce qu'on n'a pas l'ensemble. Alors, une chose que je vous encourage déjà à faire personnellement, c'est de temps en temps dans la semaine, pas forcément toutes les semaines, mais de la lire du début à la fin une fois, sans s'arrêter, comme ça là. Et vous pourrez me dire combien de temps ça vous prend la prochaine fois. C'est pas un devoir, mais. Et puis aussi de pouvoir situer un petit peu où on en est. Hein. Moi, j'ai fait cet exercice ce matin de me dire, sans reprendre ma Bible, est-ce que je peux comme ça me dire quel est le mouvement qu'il y a dans cette épître, ce qu'on suit? Et ça donne à peu près quelque chose comme ça. Ben, Paul salue, bien sûr, dit bonjour. Il y a un verset très important où il explique qu'il sert Dieu en esprit. Ensuite, il établit le fait que tout le monde est pécheur, tous. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui vivent avec la loi, ceux qui vivent sans la loi, tous ont péché, tous égaux dans le péché. Et puis, il va développer merveilleusement le beau thème du salut par la foi, par grâce reçue par la foi. Développer un détail, expliquer comment ça se passe, l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait. Il va nous expliquer aussi que lorsque les gens étaient sauvés dans l'Ancien Testament, ben, c'était toujours à cause de ça, et que Dieu était juste de les justifier en nous justifiant aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène au chapitre 7, où dans ce chapitre, on a tout ce conflit qu'il y a en Paul entre sa vieille nature et sa nouvelle nature. Hein. Je sais ce qui est bien, j'arrive pas à le faire, je sais ce qui est mal et je continue de le faire. Et toute cette lutte, ou qui répète vraiment en détail avec ouais, ce combat, qui débouche sur ce magnifique chapitre 8, hein, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Par la grâce, nous pouvons être libérés et la vie victorieuse par l'Esprit. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et puis, on avance dans ce chapitre avec cette proclamation merveilleuse que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, du Dieu en Jésus-Christ, hein, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les ténèbres, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, etc., etc. Et puis, il y a cette petite parenthèse qu'on a sautée, qu'on va consacrer un samedi entier. Le 9 et le 10, c'est une partie du 11, traite du rapport entre l'élection, la souveraineté de Dieu et la place d'Israël dans l'histoire. Et puis ça faisait compliqué de faire un dimanche matin, on le reprendra. Et on arrive au chapitre 12. Chapitre 12, maintenant, après avoir exposé le fondement de notre salut, Paul passe, comme disent les Américains, à l'endroit où le pneu touche la route. Passe à la vie pratique, à la vie de tous les jours. Et là, on a cette exhortation qui ouvre le chapitre 12. Donnez vos vies à Dieu, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et puis, on avance dans les choses pratiques et on va aborder le sujet du corps de Christ, l'Église, le corps de Christ, les dons de chacun. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui est dans ce contexte-là. Et pourquoi je reprends tout ça? Ben d'abord parce que c'est important d'avoir cette vue pour voir où on arrive, mais aussi pour montrer que toute la première partie, qui est la plus grosse partie de l'épître, ce qu'on appelle la partie doctrinale, n'a de sens que parce qu'elle nous permet de vivre les choses pratiques qui suivent. et que ces choses se vivent dans le corps de Christ. Hein. Il n'est pas question ici d'une institution particulière, d'une église dans le sens un nom d'église, mais du corps de Christ, les croyants qui se retrouvent, qui vivent ensemble, qui partagent, qui vivent. Et c'est pour ça que quand on voit tout ce qui est développé, on se dit si la vie d'église, ce qu'on appelle la vie d'église, se résume à une rencontre le dimanche matin, ben, c'est impossible d'y placer tout ce qu'on a dans ces chapitres-là. Hein. Comment on peut avoir de la tendresse les uns pour les autres, de l'amour fraternel, de l'amour mutuel, comment on peut prier les uns pour les autres, comment on peut exercer l'hospitalité le dimanche matin entre 10h et midi. C'est pas possible. Et ça nous montre bien que tout ce que Christ a fait, c'est pour qu'on puisse vivre avec lui et les uns avec les autres, et pour qu'on vive cette vie au quotidien. Et bien sûr, le dimanche matin, ben, y a cette tradition, on se retrouve autant qu'on peut. Ce matin, on n'est pas nombreux, mais on va en profiter, comme ça vous pouvez participer, hein, vous pouvez reparler. Mais le but, c'est qu'on vive ces choses-là. Et puis tout cet exposé doctrinal qui nous rappelle que Dieu nous a aimés inconditionnellement, que nous n'avons pas besoin de devenir quelqu'un de bien avant d'aller à lui, mais c'est lui qui le fait après, hein, dans l'autre sens. Tout ça, c'est le fondement sur lequel les choses pratiques doivent être comprises. Parce que si on étudie la doctrine comme une réalité intellectuelle d'un côté, ok, j'ai compris ça, je le mets sur une étagère, puis après, on étudie les conseils pratiques comme voilà ce qu'il faut faire. Mais on ne fait pas le lien entre les deux. On ne comprend pas que c'est le fait de recevoir la vie de Dieu, de recevoir l'amour de Dieu, qui fait que, dans la vie pratique, je vais avoir de la tendresse vis-à-vis de mes frères et sœurs, que je vais être patient, que je vais être persévérant, que je vais prier, parce que prier, c'est discuter avec Dieu, que je vais, etc., etc. Hein. Ces choses-là doivent être liées en nous et pas rester des éléments séparés, théoriques, sur une étagère. De temps en temps, j'en sors un, je sors l'autre. Ça doit faire un tout parce que c'est nos vies et que nos vies ne sont pas dissociées en petits bouts. Ma vie avec Dieu, ma vie au travail, ma vie en famille, ma vie avec les voisins, ma vie quand c'est intéressant, ma vie quand c'est pas intéressant. C'est notre vie, on n'en a qu'une et Dieu est tout le temps. Et puis, il y a des moments où on le vit ensemble, comme ce matin. Alors ça, c'est juste une introduction et un rappel, mais c'est important, et je vous encourage à essayer de le faire, de replacer les choses qu'on voit dans l'ensemble, et de savoir pour vous, dans votre propre vie, comment elles s'articulent. On était donc, chapitre 12, versets 9 à 13, je le relis une fois. « L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. » J'ai déjà développé un petit peu des caractéristiques communes à cette liste. J'avais à cœur ce matin de m'arrêter sur juste un des aspects, verset 12. « L'espérance, qu'elle soit votre joie. » C'est un mot qu'on peut utiliser facilement. Mais c'est dans les moments où on l'a perdue qu'on réalise la place qu'elle a dans nos vies. Quand on est désespéré, la désespérance, c'est une chose terrible. Être dans l'épreuve, c'est pas agréable. Être dans les difficultés, c'est terrible. Mais ne plus avoir d'espérance, c'est une horreur. C'est le pire de tout. Et paradoxalement, des fois, on peut être dans des situations très compliquées, mais on a toujours notre espérance. Et des fois, dans des situations qui ne sont pas extrêmes, qui paraîtraient en tout cas aux gens de l'extérieur pas catastrophiques, mais pour une raison ou une autre, on a perdu notre espérance. Et là, c'est la nuit même s'il fait jour. C'est l'hiver même si c'est l'été. C'est la joie même s'il y a des rires autour. C'est terrible. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de réfléchir parce que c'est pas naturel. L'espérance, qu'elle soit votre joie. À la fin d'un Corinthiens 13, on connaît tous ce verset, hein, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc l'espérance fait partie des trois choses que Paul retient comme essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. C'est pas par hasard, bien sûr, s'il la place à cet endroit-là, hein. L'espérance est un sous-produit, on va dire, de la foi. C'est la foi qui va permettre à l'espérance d'être là. L'amour est à la fois le but, le point de départ et le carburant. Parce que lorsqu'on n'aura plus besoin de foi et plus besoin d'espérance, c'est des valeurs terrestres, la foi et l'espérance. Elles ne sont pas éternelles. On n'en a plus besoin dans l'éternité. Mais l'amour, qui était le point de départ, qui est le but, qui est le point d'arrivée, mais qui est aussi le carburant, si je peux dire, pour les deux autres, lui va rester tout le temps. Mais nous sommes sur terre et nous avons besoin de foi et d'espérance. L'espérance, j'ai dit, découle de la foi. L'espérance est différente du désir. Je pense que c'est deux choses qu'on confond facilement. Moi, je suis toujours amusé parce que je vois ça dans la vie de mes enfants, puis je le vois dans ma vie aussi. Comme on aime avoir envie de quelque chose. Je vois ma fille, quand Noël est passé, bon, elle a la chance que Noël et son anniversaire soient à 6 mois d'intervalle, hein, donc ça coupe l'année en deux. Hein. La veille de Noël, déjà, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va demander comme cadeau pour son anniversaire. Et puis, le lendemain de son anniversaire, elle commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait mettre sur sa liste de cadeaux pour Noël. Bien sûr, ça va changer des millions de fois, hein. Mais on s'aperçoit, et c'est tellement frappant chez les enfants, et puis on se dit on est pareil, de voir qu'elle a ce besoin d'avoir envie de quelque chose qu'elle n'a pas. Ça la motive, ça la stimule, etc. Et je me dis, nous souvent on est pareil, hein, quand j'ai quelque chose de concret qui m'attend, qui est devant, alors que ce soit les vacances, une promotion au travail, mon mariage, la retraite qui arrive, je ne sais rien, partir à la pêche, retrouver mes amis, aller faire du sport. J'ai ce truc qui arrive là, et ça produit effectivement une certaine joie, qui est pas mauvaise, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas l'espérance. En tout cas, c'est pas l'espérance dont Paul nous parle ici. Parce que cette joie qui vient d'un désir anticipé, ou plutôt d'un plaisir anticipé de quelque chose qu'on désire, elle est sujette à disparaître. D'abord parce que l'événement peut, pour une raison ou une autre, être changé, peut être annulé. Ensuite parce que moi je suis pas certain d'y arriver aussi. Hein. Et puis, de toute façon, on sait très bien que une fois que la chose est obtenue, consommée, il reste très très peu du plaisir anticipé. Hein. Le plus grand plaisir, c'est avant. Et puis, on vit comme ça, c'est pas un problème. Mais l'espérance dont la Bible nous parle, c'est autre chose. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cette espérance, elle a un objet. Hein. Donc, elle n'est pas, c'est pas une chimère, c'est pas la carotte qu'on attache devant l'âne, mais quand il avance, la carotte avance, donc il l'aura jamais, mais ça le fait avancer, non ? Elle a un objet réel, et cet objet réel, il n'est pas dans le futur, on peut l'avoir, plutôt l'expérimenter au présent. Hein. Quand on a fait notre parcours de Romains, on est passé un peu vite dessus, c'est vrai, mais on a lu Romains 5:5 qui dit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. » L'espérance ne ment pas. Hein. L'espérance n'est pas sans contenu. L'espérance n'est pas une arnaque, on pourrait dire aujourd'hui. Parce que l'amour de Dieu a été, donc c'est quelque chose qui a été fait, répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ce qui fait que mon espérance, c'est pas juste un jour ça ira mieux, mais en attendant ça va mal, hein, c'est que Dieu propose de remplir le vide, le manque, le désespoir, le besoin qui est en moi par sa vie et principalement par son amour, parce que c'est ce qui va apporter, combler ce manque, cette insatisfaction que nous avons en nous. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me suis aperçu tard dans ma vie chrétienne que pendant des années, j'ai récité et lu ce verset, j'avais dû apprendre à l'école du dimanche, avec « L'espérance ne trompe pas parce que nous avons reçu l'amour de Dieu qui sera répandu dans votre cœur. » Je ne sais pas pourquoi je le mettais au futur, ce truc-là, quoi. Mais non, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Le jour où nous sommes venus à la foi, ça s'est fait une fois, mais ce n'est pas une fois pour toutes. Enfin, ça serait super, hein, mais ce n'est pas comme ça. Je me lève le matin et alors je peux décider de vivre ma vie avec mes petites espérances humaines. Hein. Je me lève et je suis content parce que c'est vendredi matin, ce soir c'est le week-end. Je me lève et je suis content parce que dans 3 jours, je pars au ski. Je me lève et je suis content parce que mon compte est approvisionné et je vais aller faire du shopping. Je vais faire chauffer ma carte de crédit. Enfin, ma carte bancaire. Hein. Je me lève et je suis content parce que je vais changer ma guitare, je vais enfin me payer ma Gibson. Je vais changer ma voiture. Toutes ces petites choses qui font qu'on est content, on est motivé. Et il n'y a rien de mal avec ça, encore une fois, dans la mesure où c'est des choses saines. Mais on sait très bien que c'est... Ouais, voilà, il en faut toujours une autre, ça ne suffit pas. Et puis il y a des moments où on en a marre de toutes ces petites choses-là. Et on se dit, mais j'ai quoi d'autre ? Alors c'est vrai qu'il y a des choses, des valeurs plus grandes. Hein. Je vais voir mes enfants, ils viennent me visiter, ou je vais avoir des enfants, les relations humaines, c'est super aussi. Mais là aussi, c'est sujet à déception, ça ne remplit pas pleinement. Mais l'espérance que Dieu nous propose... elle remplit, hein. Elle ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été, est et sera, mais est au présent, déversé dans nos cœurs par l'Esprit. Cette espérance, elle ne peut pas mourir. Hein. L'apôtre Pierre nous dit, je cherche un petit peu plus loin, 1 Pierre 1, 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » J'ai dit que c'était l'amour qui était la substance de l'espérance, mais l'amour est juste une des caractéristiques de Dieu. Et en fait, une caractéristique de Christ, bien sûr, puisqu'il est Dieu. Nous avons une espérance vivante. On va fêter dans 2 semaines Pâques. Hein. Et c'est un sujet, c'est aussi pour ça que j'ai pensé aborder ce sujet ce matin, en préparation à cette période-là. Période préférée de Pascal, les fêtes Pascal. La résurrection et l'espérance chrétienne sont liées. Tout ce en quoi j'espère, quand je l'ai atteint, ben, c'est plus là. Et puis, après, c'est derrière. Et puis, ça peut disparaître. Mes amis peuvent me tromper ou me trahir, mes amis peuvent mourir, mon argent peut disparaître, ma voiture peut rentrer dans un arbre, etc., etc., etc. Ma santé peut décliner, mais cette communion que nous avons avec Christ, il n'y a rien qui peut l'affecter, parce qu'on peut l'avoir tout le temps jusqu'au bout de notre voyage sur Terre, et le jour où on ne l'a plus, on sera avec lui, donc on l'aura encore. C'est important d'avoir au moins quelques certitudes, d'en avoir au moins une. C'est une chose difficile, je trouve, en vieillissant. Quand j'étais enfant, il suffisait que je voie mes parents, j'étais en sécurité. Voilà. Et puis on grandit, et puis il y a des choses qui... Ouais, ben, y a... Et puis moi j'ai le privilège d'avoir encore mes parents, mais qui sont âgés. Et on s'aperçoit quand nos parents ne sont plus là, ou qu'en tout cas on considère qu'ils ne vont plus être là bientôt, on se dit, mais le prochain c'est moi. Et puis on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui est sûr. Hein. Ça leur est arrivé à eux et ça va m'arriver à moi. Et je vais quitter cette terre. Mais cette espérance-là, elle est vivante. Elle ne peut pas disparaître. Christ ne peut pas mourir, il est mort une fois, il est ressuscité. Ça ne va pas re-arriver. Il n'y a pas d'arnaque possible, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de possibilité que le cours de l'amour de Dieu s'écroule à la bourse, il n'y a pas de possibilité que des voleurs le dérobent, il n'y a pas de possibilité que quelqu'un en prenne tellement qu'il n'y en ait plus assez pour moi, il n'y a pas de possibilité que j'en consomme tellement qu'il n'en reste pas assez. Elle est vivante. Et l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 6, elle est comparée à une ancre. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, 6-19. Sûre et solide, elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint. On ne va pas reprendre toutes les images que ça évoque avec le temple. Mais elle est une ancre qui fait que nous ne partons pas à la dérive, qui nous permet de traverser le temps de notre formation, de notre école, de notre voyage sur Terre. Je pensais ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, non, sûrement pas, vous rappelez pas, mais il y a longtemps de ça, j'avais pris une image. En tant que croyant, on est un petit peu comme des baleines, hein, ou des dauphins, ou des cétacés, qui vivent sous l'eau, mais qui en même temps ont besoin de respirer l'air. Alors, on est sous l'eau, mais on sort, on respire, et puis... Et en tant que croyant, on vit comme ça. On est sur Terre, mais on a besoin d'autre chose, alors on respire un coup avec Dieu, et puis en apnée, on nage un moment. Mais l'espérance et la foi, c'est un peu comme des bouteilles d'oxygène pour traverser la mer, en plus des respirations célestes de temps en temps. On les a sur le dos avec nous. Et en même temps, c'est une ancre sûre et solide. L'espérance a des répercussions concrètes sur notre comportement. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance n'agit pas comme quelqu'un qui a une espérance. On a un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible, dans la Genèse. Souvent, je reviens à ce verset quand je me trouve un peu découragé. C'est Joseph, ouais. Joseph pense que son fils est mort, hein. Jacob pense que Joseph est mort. Les prénoms. Ça fait des années qu'il pense que son fils est mort, mais c'était son préféré. C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Depuis ce moment-là, il est désespéré. Et il n'a plus de projet pour la vie. Ses fils font des trucs, ils vont, ils viennent. Mais lui, il n'a plus de projet. Finalement, ses frères apprennent qu'il est vivant, ils reviennent, et puis ils lui disent « Il est vivant, il vit là !» Et là, je vous lis ces deux versets, Genèse 45, 26-27. « Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. » Le fils était vivant, mais lui, il ne le croyait pas, il ne le savait pas. Donc, pas d'espérance, il est abattu. Alors, ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit, puis ils lui montrent les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Ils amènent des évidences, ils nourrissent sa foi. Alors l'esprit de Jacob reprit vie. Il se leva et il dit, c'est assez, comme la baleine, hein. Oups. Je m'en vais, je vais retrouver mon fils. Et il part pour un voyage de je ne sais plus combien de kilomètres à cette époque-là, sur un chariot, en plus il boitait, il était vieux, tout. Tout change. C'était un vieux monsieur mourant qui attendait la mort pour rejoindre son fils. Il croyait en Dieu, hein. C'était pas quelqu'un de athée. Il pensait que son fils était au ciel, il allait le rejoindre. Et puis, plus aucun projet pour cette vie. Pourquoi ? Parce que sa foi ne nourrissait plus son espérance. Il avait de fausses informations. On lui avait dit, ton fils est mort, on lui a montré la tunique avec le sang dessus, il croyait. Maintenant, il y a de nouvelles informations qui viennent, il ne les croit pas au début, on en rajoute d'autres, il voit les chariots, il voit ça. Et là, mon fils est vivant. Et tout d'un coup, le vieux monsieur qui attendait la mort sur son fauteuil, il se lève, hop, allez, mon char, les chariots, les chameaux, je ne sais pas ce qu'ils ont pris, les ânes, ils sont montés dessus, il est parti pour un voyage d'un mois, mon fils est vivant et je vais le retrouver. Il avait retrouvé l'espérance. Pour nous, c'est pareil. On peut être arrêté quelque part dans nos vies. Ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas le pardonner. Ma situation, elle ne peut pas changer. Pour moi, il n'y a plus d'espoir. Je ne suis pas assez bien, j'y arriverai pas, etc. etc. Je suis trop vieux, trop malade, trop ci, trop ça, trop... Enfin. Alors, on s'assoit, on reste des croyants. Oui, au ciel, ça ira mieux. Ce n'est pas cette forme-là d'espérance dont la Bible nous parle. Ce n'est pas une espérance qui nous dit « supporter tout ce qui va mal sur terre, ça ira mieux au ciel ». Non, ça c'est une fausse utilisation pour manipuler les gens. L'espérance que Dieu nous propose, oui, elle va se continuer dans l'éternité, mais elle est pour aujourd'hui et elle n'est pas creuse parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, tout d'un coup, ah, il voit ah, le chariot, le machin, le truc, mon fils est vivant, je me lève. Et on a besoin de ça. Il y a quelque temps, je suis passé par un moment bref, mais d'un peu de découragement et d'abattement, mais j'avais même du mal à dire pourquoi, c'était pas lié à des choses extérieures, mais j'avais perdu cette vision, Et puis j'ai réalisé que je vivais plus par la foi. Oui, je vivais comme un croyant, si on m'avait demandé si Dieu existe, bien sûr, je priais, je lisais ma Bible, mais il n'y avait plus de goût, il n'y avait plus de... Ouais, ben voilà, j'attends que ça passe, quoi. Et puis, je m'en suis aperçu en me tournant vers Dieu, il a rempli mon cœur, et puis, qu'est-ce que je fais assis? Je me lèverai et je vais me mettre en route, mon fils est vivant. Il y a encore de l'espérance pour nous, il y a encore un avenir. Et c'est toujours, ça part de l'amour, ça va vers l'amour, et c'est lui qui nous alimente, mais il y a la foi qui nourrit l'espérance et qui s'en va. Alors je relis ce dernier verset. « Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit, puis Jacob vit des chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors ce fut comme s'il reprit vie. Il se leva et il dit, « J'irai rejoindre mon fils. » Et bien sûr, c'est lié à la résurrection de Christ, comme je l'ai dit, qu'on se prépare à célébrer et qui doit remplir nos cœurs. Alors je vous encourage à méditer là-dessus et à laisser l'espérance que Dieu nous propose à remplir vos vies aussi. Seigneur, on te demande que tu puisses nous faire réaliser, nous faire comprendre réellement comment ton amour veut nous envelopper par devant, par derrière, nous attirer à toi. Et que tu puisses être cette encre, être cet oxygène, cette vision d'un futur encore possible avec toi, qui nous permet de nous lever, de mettre un pied devant l'autre pour avancer à ta suite. Que ton espérance remplisse nos cœurs, que la foi la nourrisse et que ton amour nous conduise.